Voilà, bonjour et merci à ceux qui ont déjà participé. On a reçu beaucoup. Alors moi, j'aimerais bien vous parler de deux prophètes, Élie et Élisée, dans l'Ancien Testament. J'espère que vous connaissez ces récits. Ça vaut le coup de lire si vous ne connaissez pas. Ça se trouve, Élisée, ça commence avec deux rois et puis la fin de un roi. Vous avez le récit d'Élie. Le prophète, ces deux prophètes qui se sont succédés, ils ont été ensemble pendant un temps et il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut retirer de leur vie en commun et de leur vie ensuite, de la vie d'Élisée ensuite. J'aimerais juste souligner quelques aspects de cette vie de ces prophètes ou du prophète Élisée plus particulièrement et de l'appliquer à notre situation en tant que chrétien. Ça veut dire que le récit qui est là est un récit historique, mais je le prends comme une analogie, si vous voulez, comme une illustration de parcours de la vie chrétienne. C'est ça le but. Vous trouvez donc à la fin de un roi que Élie, le prophète, a choisi Élisée. Il a choisi Élisée et comment il l'a choisi? Eh bien, c'était bien sûr Dieu qui lui avait montré qu'il fallait prendre Élisée comme successeur. Et donc, il est allé vers Élisée et il a jeté son manteau sur Élisée. Et il lui a dit, je paraphrase, toi, suis-moi. Alors, j'aimerais bien voir, enfin, imaginer l'effet que ça a dû faire sur Élisée. Quel honneur d'avoir été choisi par ce grand prophète Élie pour suivre ce maître qui était Élie. Et souvent on oublie que le Seigneur nous a choisis un jour. Qui est-ce ici qui n'a pas entendu la voix du Seigneur lui dire un jour, toi, suis-moi? En tout cas, s'il vous l'a pas dit précédemment, il vous le dit ce matin. Parce que c'est ça l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu, c'est ça qu'il faut proclamer, que Jésus-Christ dit encore aujourd'hui aux hommes et aux femmes, toi, suis-moi. Et non seulement il va inviter à suivre, mais ensuite il va aussi donner son manteau, n'est-ce pas? Il va dire, voilà, je te revais de ce qui me revêt, moi. Il dit dans Ésaïe 61, qui nous revêt des vêtements de la justice. Il m'a revêtu des vêtements de la justice. Et c'est très important et ça a d'autant plus de sens que l'on se sent coupable et que l'on se sent souillé, n'est-ce pas? La justice, c'est le contraire dans la Bible, le contraire du péché. Et si vous n'avez pas été revêtu du vêtement de la justice, ça veut dire que vous êtes revêtu du vêtement du péché, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens qui se sentent revêtus de ce vêtement de souillure, revêtus de ce vêtement de culpabilité, revêtus de ce vêtement de la condamnation. Et lorsque Jésus vient, peut-être dans une réunion ou chez soi, par le Saint-Esprit, vous savez que Dieu n'a pas besoin de bâtiment, il n'a pas besoin de rassemblement, il n'a pas besoin d'attendre l'heure d'une réunion. Pour pouvoir agir, il y a des gens qui peuvent témoigner de cela, qui se sont convertis comme ça, parce que le Seigneur a touché leur cœur, alors qu'il n'y avait personne autour d'eux, alors qu'ils n'étaient pas en train d'entendre l'Évangile. Le Saint-Esprit vient et Jésus vient et il dit, toi, suis-moi, et il revêt des vêtements de la justice. Quel effet extraordinaire! Quand on se sent revêtu de la pureté, de la propreté de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, alors qu'on était couvert de culpabilité. Peut-être vous êtes venu ce matin avec des vêtements dont vous avez honte. Je ne parle pas des vêtements physiques. Je parle de choses qui vous revêtent à cause de votre passé, à cause de votre histoire. Mais seulement entendez la voix du Seigneur ce matin qui vous dit, toi, suis-moi. Je vais te revêtir des vêtements de la justice. Et ce qui est frappant, c'est qu'Élisée a suivi son maître. Il a suivi Élie. Il a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je viens te suivre. Voilà ce qu'il faut faire. Embrasser son père et sa mère, pas littéralement, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quitter son histoire. Voilà ce qui était du passé, ce qui a été de mon éducation, ce qui a été de ce qui m'a influencé jusqu'à présent au niveau de mes idées, de mes croyances. Je vais couper avec ça. C'est pas couper brutalement, c'est pas renoncer, renier à tout ça, tout cela. Ça veut juste dire, voilà, ça va plus influencer ma vie maintenant. Celui qui va influencer ma vie pour Élisée, c'était Élie. Et il a commencé à suivre Élie. Dans le 2 Rois chapitre 2, vous avez donc Élisée qui suit Élie. Mais alors vraiment partout. Vraiment partout. Il est vraiment... Parce qu'il savait qu'Élie allait connaître une expérience extraordinaire, très rare dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il a été enlevé au ciel. Et donc Élisée voulait absolument être là quand cela arrive. Donc il suivait. Alors, Élie, vous lisez dans le chapitre 2 que Élie lui dit, voilà, Dieu m'appelle à Bethel. Reste ici, ils étaient en train de sortir de Gilgal, et Dieu dit à Élie, voilà, va à Bethel. Alors Élie dit à Élisée, toi reste ici, moi Dieu m'appelle à Bethel. Élisée dit, non, non, je vais te suivre. Je vais te suivre jusqu'à Bethel. Et peut-être vous avez suivi le Seigneur Jésus, peut-être que vous suivez le Seigneur Jésus depuis des années. Vous avez suivi le Seigneur Jésus jusqu'à Bethel. Vous êtes allé avec lui jusqu'à Bethel. Et qu'est-ce que c'est Bethel ? Je l'avais déjà mentionné dans une prédication antérieure, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas ? Le terme Bethel, le nom de la ville veut dire maison de Dieu. Mais ça a été inauguré, ce nom de ville, par Jacob lorsqu'il était en fuite de son frère Ésaü, parce qu'il s'est arrêté à un endroit et il a eu une vision par la nuit, il a eu une révélation de la présence de Dieu. Et il a eu cette exclamation lorsqu'il s'est réveillé, voilà, le Seigneur était présent, Dieu, l'Éternel était présent dans ce lieu et je ne le savais pas. Est-ce que vous avez vous-même connu la présence de Dieu d'une manière réelle et profonde? Cette rencontre avec Dieu qui fait qu'on ne peut pas contester quoi que ce soit, on dit simplement « voilà, Dieu est présent ». Combien j'aspire et combien en tant qu'anciens, les anciens ici, nous aspirons à ce que la présence de Dieu soit une réalité. Pas juste des paroles, mais la présence de Dieu qui fait que même, peut-être, il y aurait le silence total. C'est-à-dire plus personne qui peut s'exprimer parce qu'il y a la présence de Dieu. En tout cas, Jacob a vécu ce moment, il a même dit, il a décrit ce moment comme redoutable. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous fait éclater, n'est-ce pas, où on dit il y avait une ambiance géniale. On peut faire ça, on peut créer ça dans des églises, des ambiances. Mais ce n'est pas du tout là que se trouvera la présence de Dieu. La présence de Dieu est sainte. Elle nous fait prendre conscience de notre état de misère. Et Élisée a suivi Élie jusqu'à Bethel, à la maison de Dieu. Et vous avez été amené vous-même à la maison de Dieu, probablement par quelqu'un d'autre, peut-être par personne, peut-être par le Saint-Esprit lui-même. Peut-être que quelqu'un a prié pour vous, vous ne le savez pas. Peut-être que c'est un ancêtre qui, lorsqu'il était en vie, a prié pour ses descendants. Il a prié que parmi ses descendants soient suscités des hommes et des femmes de Dieu. Et Dieu est en train d'exaucer ses prières. Mais en tout cas, vous avez été amené à la maison de Dieu. Et comment vous réagissez à cela? Comment vous répondez à cette présence de Dieu, à cette manifestation? Vous savez, moi, je suis allé dans dans des endroits où on parle de Dieu, je nommerai pas les endroits, dans des rassemblements où on parle de Dieu, mais il n'y a rien, il n'y a rien de la présence de Dieu du tout. Il n'y a rien qui se passe dans les vies, il n'y a rien qui s'opère, mais ça ne peut pas, il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Parce que quand Dieu est là, il y a quelque chose qui se produit dans la vie des hommes et des femmes. Soit ils résistent, dans ce cas-là, il y aura une opposition, une fermeture. Soit ils s'ouvrent, et dans ce cas-là, il y a un changement qui commence à se faire. Ce n'est pas forcément un changement radical. Ça peut être un début de quelque chose, mais il y a quelque chose qui est entamé, n'est-ce pas? Il y a un processus qui est entamé dans les vies, quand la présence de Dieu est là. Et voilà l'endroit où Élie a amené Élisée, en lui disant de ne pas aller là. Mais il voulait tester la fidélité d'Élisée. Est-ce que vous suivez Jésus, vous avez suivi Jésus jusqu'à la maison de Dieu? Maintenant, Élie dit à Élisée, reste là. Moi, je dois aller à Jéricho. Élisée a dit, non, non, je vais te suivre à Jéricho. Je vais te suivre. Voilà comment vous devez être. Voilà comme je dois être. Quand on a l'occasion de ne plus suivre, dire, Seigneur, non, je vais quand même te suivre. Il y a des situations de la vie où on a le choix. Si on nous demandait ce matin si on voulait, on était prêt à mourir pour Jésus-Christ, est-ce qu'on va dire, oui, Seigneur, toi tu vas à la croix, mais moi j'y vais pas. Mais ici, en tout cas, il a suivi jusque Jéricho. Et Jéricho, vous savez, c'était une Jéricho reconstruite. Mais vous savez ce qui est arrivé aux murailles de Jéricho lorsque Josué et le peuple d'Israël ont commencé à conquérir la terre promise. Eh bien, les murs de Jéricho sont tombés. Par la puissance de Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Et peut-être vous avez été amené, en suivant Jésus, vous êtes amené à cette expérience extraordinaire où vous voyez que des murailles de votre vie sont tombées. De toute façon, il faut que ces murailles tombent. Le problème, c'est que les murailles, ce sont des constructions, ça fait partie du patrimoine, et c'est là ce qu'on ne veut pas voir tomber, n'est-ce pas? Ça fait partie de mon éducation. C'est ce qui me fait ressembler à mon père, c'est ce qui me fait ressembler à ma mère. Si je renonce à ça, eh bien, je suis en train de renoncer à mon histoire, à ma raison d'être. Oui, ben c'est exactement ça que Jésus veut toucher. C'est ton passé. Est-ce que les murailles qui ont été construites autour de ta vie, tu es prête à les voir tomber? Est-ce que tu es prêt à ce que ce miracle de Dieu s'opère sans l'intervention des hommes. On est toujours en train de penser qu'on doit intervenir. Il faut gérer cette affaire. Il faut gérer. L'Esprit de Dieu agit de lui-même. On l'a entendu ce matin. On a entendu la puissance de Dieu, la puissance de Jésus pour chasser les démons. Jésus agit, et si Jésus est vrai, si Jésus est le même que celui aujourd'hui qu'il était du temps de l'Évangile, alors il agira. Et ce n'est pas les hommes qui vont abattre vos murailles, ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas les systèmes qui vont abattre, ce n'est pas vous-même qui allez commencer avec un burin à essayer un petit peu de commencer à casser une muraille comme celle de Jéricho. Vous allez vous fatiguer. Vous allez être déçus, découragés. Laissez l'Esprit de Dieu et obéissez à Dieu, et c'est lui qui fera tomber les murailles. Oh, les murailles sont quelquefois la famille, quelquefois c'est la réputation, quelquefois c'est des choses qui sont insurmontables. On dit à Dieu, mais c'est impossible. Et que nous répond le Seigneur? Oui, c'est impossible, mais je suis le Dieu de l'impossible. Si Dieu est le Dieu du possible, alors il n'est pas Dieu. Si Dieu peut faire les choses, si on a la foi que Dieu peut agir dans telle situation, mais à condition que je gère la situation moi-même et qu'il s'agisse d'une situation que je peux résoudre moi-même, je ne vois pas du tout le sens de la présence de Dieu. Mais on a besoin de voir l'œuvre de Dieu dans les situations de miracle. Si vous avez une situation qui est impossible ce matin, impossible, eh bien, c'est précisément pour vous que Jésus est venu sur la terre. Tous ceux qui ont des situations gérables, qui sont en disant bon, « ça va, j'arrive, j'assume, je gère, je suis quelqu'un qui peut contrôler ma vie, qui peut gérer les circonstances de ma vie », eh bien, Jésus, vous n'avez pas besoin de Jésus. En tout cas, il n'est pas venu pour vous. C'est dur à dire, il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants, il est venu pour les malades. Parce que ce matin, vous avez été amené à Jéricho et vous avez vu ces murailles. Et si ce n'est pas le cas, on va voir, il va vous amener à Jéricho si vous voulez le suivre. Élie à Jéricho, après un certain temps à Jéricho, a dit « Ah, voilà, Dieu m'appelle au Jourdain. Toi, reste ici, moi je vais aller au Jourdain. » Vous savez que le Jourdain n'est pas loin de Jéricho, puisque c'est la première ville que le peuple d'Israël, après avoir traversé le fleuve du Jourdain, eh bien, devait conquérir. Et donc, Élisée, bien sûr, là je ne fais plus le scénario, Élisée a suivi son maître jusqu'au Jourdain. Je peux imaginer Élisée se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de marcher vers les rives du Jourdain. Et quand il arrive près du Jourdain, Élie prend son manteau et tape les eaux, et les eaux se séparent, de sorte qu'il y a un passage. La deuxième fois dans l'histoire où ça se produit, la première fois, c'est quand le peuple a traversé le fleuve. Eh bien, Élisée suit. Et quand il traverse ce Jourdain, et le Jourdain a beaucoup de significations, je vous les laisse trouver, je ne voudrais pas proposer parce que ça va. Il y a plusieurs interprétations du symbole de ce que représente le Jourdain. Je vous les laisse chercher dans la Bible parce que si j'en donne, ça va frustrer d'autres personnes qui avaient une autre façon de voir le Jourdain. Mais en tout cas, quand il traversait le Jourdain, Élie dit à Élisée quelque chose de très important. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et voilà encore quelque chose dans la bouche d'Élie, cette parole de Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce matin, Jésus, je vous mets à défi de croire que Jésus est ici et vous dit à chacun, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Élisée était sérieux, il l'avait prouvé. Donc sa parole, sa réponse avait du sens. Peut-être ce matin, vous n'êtes pas sérieux et vous dites juste, ah ben oui, ben fais ça pour moi. Tiens voilà, ben tu me demandes, donc je vais faire ça. Je vais te dire ça, tu peux faire ça pour moi. Mais Élisée était sérieux. Et Élisée a choisi exactement ce qu'il fallait choisir. Il a dit que je reçoive une double portion de l'Esprit qui était sur toi. Et vous savez que Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit lorsqu'ils monteraient au ciel. Il enverrait le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin vous allez dire, ou en rentrant chez vous, vous allez dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, on peut commencer à avoir un débat théologique en disant, oui, mais quand je me suis converti, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je n'ai plus besoin de demander le Saint-Esprit, sinon ça veut dire que je remets en question le fait qu'un jour j'ai été. Oubliez tout ça. On est dans la dimension éternelle, on n'est pas dans le temps, il y a eu ça qui s'est passé, est-ce que je dois demander, est-ce que... Ben, il n'y a aucun mal à demander le Saint-Esprit pour la millième fois. Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. C'était le désir d'Élisée, remplis-moi du Saint-Esprit. Oh, à l'époque, on ne disait pas le Saint-Esprit, on dit la double portion de l'Esprit qui était sur toi, mais ça voulait dire le Saint-Esprit, bien sûr. Alors Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile, Et oui, si vous demandez le Saint-Esprit, vous demandez quelque chose de difficile. Vous demandez au Seigneur quelque chose de difficile. C'est facile pour lui de donner, il est content de le donner. Mais je crois que c'est difficile pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit ce matin? Ça va être difficile, parce que ça va changer des choses dans votre vie. La difficulté, ce n'est pas pour Dieu. Quand Élie a dit « tu demandes quelque chose de difficile », c'est pas « ouh, ça va être difficile de l'avoir », je crois. C'est que c'est difficile. Si tu vas avoir le Saint-Esprit en toi, eh bien, il y a des changements dans ta vie qui vont s'opérer aujourd'hui. Il y a aussi un témoignage qui commencera et qu'il faudra faire durer toute ta vie. En tout cas, Élie lui a dit, voilà, si tu es là quand je monte au ciel, alors tu recevras le Saint-Esprit, tu recevras l'Esprit qui était sur moi. Et c'est ce qui s'est passé. Élie a été enlevé sous les yeux d'Élisée dans le ciel, et Élisée a récupéré le manteau d'Élie et il l'a mis sur lui. Et il a reçu l'Esprit de Dieu, parce que c'était une promesse. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Quelle joie dans son cœur! Quelle joie dans son cœur de pouvoir recevoir l'Esprit, de savoir, je peux l'imaginer, ayant vu cette chose extraordinaire se produire, de manière prophétique, exactement ce qui s'est passé avec Jésus qui est monté au ciel, qui avait dit à ses disciples, quand je monterai au ciel, je ne serai plus avec vous, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, maintenant Élisée ne pouvait plus suivre Élie. C'était si facile. C'était Élie qui faisait les miracles. C'était Élie qui prenait les décisions sur les orientations et il fallait le suivre. Mais maintenant, Élisée est arrivé à une dimension plus profonde avec le Seigneur. Il avait reçu lui-même en lui le Saint-Esprit. Et c'était plus suivre un modèle, c'était plus suivre et prendre, accepter les décisions de l'autre. C'était lui-même qui devait prendre les décisions selon ce que l'Esprit lui indiquait. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je crois qu'on a besoin de plus en plus de demander le Saint-Esprit. Et Élisée est parti avec le Saint-Esprit. Le Seigneur lui a fait retourner au Jourdain. Il n'allait pas rester du mauvais côté du Jourdain. Donc il fallait retraverser, n'est-ce pas? Il a fait repasser. Oh, il y a des gens qui disent, ah, voilà, une fois qu'on est passé par la conversion, on ne doit pas repasser. Eh bien, vous devez crier à Dieu tous les jours, sauve-moi. Laissez tomber les arguments théologiques. Si vous sentez que vous avez besoin que Jésus vous sauve, même si vous êtes reconnu comme étant sauvé depuis 50 ans, par une église évangélique. Laissez tomber la reconnaissance des églises évangéliques. Laissez tomber l'image que vous avez. Et dites, Seigneur, sauve-moi aujourd'hui, sauve-moi ce matin. Même si vous avez fait déclaration que vous avez été sauvé un jour, oui, mais vous avez besoin d'être sauvé aujourd'hui. Et si vous criez à Dieu maintenant, vous aurez besoin de crier chez vous à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Il a fait repasser par le Jourdain. Je ne suis pas contre moi-même, mais je dis ça juste entre parenthèses, ça n'a aucune importance de rebaptiser quelqu'un qui s'est fait baptiser et qui a abandonné le Seigneur et qui dit maintenant je retourne et je veux que mon baptême ait un vrai sens pour la vie. On va dire peut-être non, le baptême par immersion c'est qu'une seule fois. Mais en tout cas, là, il est repassé le Jourdain, de la même façon qu'Élie l'avait fait passer. Oui, il a fallu un miracle. Pour passer le Jourdain, pour toutes les étapes, il faut des miracles. Si vous ne pouvez pas donner immédiatement un miracle que Dieu a fait dans vos vies, spirituel, je parle, eh bien, il y a un doute très fort de votre expérience, de votre connaissance de Dieu. J'aime beaucoup quand les gens disent « Oui, là, le Seigneur, tu sais, le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a transformé. » Je suis allé dans une famille loin d'ici il y a quelque temps. Et c'était un régal. C'était un régal. Ils m'ont invité pour le repas, je ne sais pas du tout ce qu'on a mangé. J'ai oublié. Mais je me souviens des paroles, du début à la fin. C'était des témoignages de ce que Dieu avait fait dans leur famille. Des miracles de salut, des miracles de conversion, des miracles d'intervention de Dieu. C'était que ça. Et c'était normal pour eux. C'était la conversation banale. Si vous voulez, il y en a qui vont faire une conversation sur le football, sur l'euro. On va passer le repas à parler, c'est très intéressant. C'est très bien sur le plan social. Mais chez eux, c'était quelque chose d'autre que le football, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'autre qui les motivait davantage. Et ils devaient partager ça, ils devaient parler. Est-ce que vous avez des miracles que Dieu a fait dans vos vies que vous pouvez témoigner? Et si ce n'est pas le cas, alors le miracle, il est. Le premier miracle, il est pour ce matin, si vous acceptez. Si vous venez à Jésus, si vous venez à Jésus ce matin, Jésus vous fera connaître ces miracles qu'il veut faire. Et là, il est repassé le Jourdain, il est allé à Jéricho. Retracez l'histoire. On pourrait dire, il aurait pu dire, non, je suis déjà allé, j'ai suivi Élie jusqu'à Jéricho, j'ai déjà donné, je suis déjà passé par là. Non, il est allé parce que l'Esprit le conduisait à Jéricho. Et qu'est-ce qu'il trouve à Jéricho? Il trouve des gens qui disent, qui viennent vers lui, qui disent, ah, le séjour est bon. On vit bien à Jéricho. Mais il y a un gros problème. C'est que l'eau est mauvaise. L'eau n'est pas saine, l'eau n'est pas potable. Je suppose que c'était l'eau du Jourdain qui avait été déviée, je ne sais pas. Je ne suis pas bon en géographie, je ne sais pas si c'est une grande distance, mais qui avait été déviée. Je sais que l'eau du Jourdain était souillée, était sale, puisque Naaman, de l'époque d'Élisée, effectivement, avait été très réticent à se plonger dans les eaux du Jourdain parce qu'elles étaient sales. Donc, si c'était ce genre d'eau qui coulait, qui avait été déviée sur la ville de Jéricho, eh bien, ça ne devait pas être très bon. Donc, voilà, on est allé voir Élisée pour ça. Et il y avait là un miracle qui s'est produit, aussi extraordinaire que celui des murailles de Jéricho. C'est que Dieu a utilisé Élisée pour assainir l'eau. Et je voudrais vous dire ça, que peut-être vous êtes dans cette situation, vous dites « ma vie, elle est pas mal, mais il y a de l'eau souillée. L'eau qui jaillit en moi est souillée, l'eau qui coule dans ma vie est souillée. » Est-ce que ça pose un problème à Dieu que vous lui dites ça? Non, c'est ce qu'il attend. Il attend que vous lui dites, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il attend que vous lui dites, Seigneur, l'eau qui coule dans ma vie est souillée. J'ai tout pour être heureux, mais cette eau est souillée. Purifie-la. Et Élisée a pris du sel dans un petit récipient qui contenait cette eau. Il a jeté le sel, ce n'est pas du tout une formule magique, c'était symbolique. C'était symbolique de l'œuvre de Dieu dans la vie. Jésus a dit au peuple, à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes le sel de la terre, c'est parce que vous êtes là pour sanctifier, pour purifier. Est-ce que quand vous allez dans une ambiance malsaine, quand on vous voit, il y a quelque chose, vous savez, la musique qui s'éteint comme ça, voilà. Vous êtes là et on ne peut plus sortir les blagues parce que vous êtes là. On ne peut plus faire n'importe quoi parce que vous êtes là. Eh bien, voilà ce que doit être le chrétien. C'est ça, être le sel de la terre. Mais là, il n'était pas question juste de la présence d'Élisée dans ce lieu. Tes présences de l'œuvre de Dieu sur l'eau qui coulait à Jéricho, ça a été purifié. Est-ce que ce matin vous croyez que Jésus peut purifier vos cœurs? Que Jésus peut purifier cette eau qui coule? Il y a des gens qui sont liés par la pornographie et qui ont besoin d'être lavés. Et ils ont l'impression que c'est monstrueux. Ils ont l'impression que c'est haut Dieu. Et lorsqu'ils confessent ça à Jésus timidement, ils ont l'impression que Jésus va dire « Oh, c'est choquant !» La société a décidé que ça serait plus choquant que d'autres péchés. Mais c'est un problème qu'il faut gérer. Il faut demander à Jésus « Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Change cette eau afin qu'elle devienne saine de malsaine qu'elle est. » Et Jésus fait le miracle comme il l'a fait du temps d'Élisée. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le voulez ce matin? Que ce soit une eau pure qui coule, qui jaillit de votre vie, n'est-ce pas? Après Jéricho, eh bien Élisée va à Bethel. Il va à la maison de Dieu. Il retourne le chemin encore, le chemin en arrière qu'il avait fait. Il n'a pas dit, mais Seigneur, je suis déjà allé. Rappelle-toi, j'ai suivi Élie jusqu'à Bethel. J'ai obéi. Non, tu vas à Bethel. Mais maintenant, tu vas avec le Saint-Esprit qui est en toi. Tu vas à la maison de Dieu. Et la Bible est extraordinaire parce que le Nouveau Testament nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Mais en allant à Bethel, il se passe un événement qu'on aimerait bien ne pas lire. Parce qu'il y a des enfants qui se sont moqués d'Élisée. Ils se sont moqués de son physique. Et parce qu'ils se sont moqués, ils ont été déchirés par des ours. Alors ça paraît, je crois qu'il y en avait 42, je ne sais plus. Ça paraît effrayant, n'est-ce pas? On peut dire, oh Seigneur! Mais dans l'Ancien Testament, la mort des individus symbolise la mort des forces spirituelles dans le Nouveau Testament. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous, le Seigneur, par le Saint-Esprit, vous amène à devenir la maison de Dieu, vous-même être Bethel, eh bien, il y aura des puissances qui vont se moquer de vous. Il y aura de la moquerie. Toi, tu veux devenir la maison de Dieu? T'as pas vu comment t'es? Tu veux servir le Seigneur? T'as pas vu comment tu es? Ça va pas durer longtemps. Tu vas changer d'avis dans quelques temps ou tu seras à nouveau comme avant. Il y aura la moquerie. Mais la puissance de Dieu est plus forte que cette moquerie. Et cette moquerie sera déchirée. Si tu laisses l'Esprit de Dieu agir, eh bien, ce qui te complexe, qui te donne des complexes énormes, va tomber, va être détruit. Quand j'étais adolescent, à une époque, je ne pouvais pas du tout parler, même répondre au téléphone, me posait un problème immense. J'étais détruit à beaucoup de niveaux. Je ne pouvais pas envisager de parler en public. C'était même pas envisageable de pouvoir s'exprimer. Et l'Esprit de Dieu agit. Vous savez, c'est tous des arguments pour ne pas s'approcher de Dieu, pour ne pas servir le Seigneur. Je ne peux pas. Il y a ça et ça dans mon physique, dans mon histoire, dans mes problèmes. Mais le Seigneur est puissant. Laissez les ours déchirer ces problèmes. Laissez le Saint-Esprit agir et il va réduire ces difficultés. Parce que la puissance de Dieu est réelle. Parce que la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ça n'a aucun sens de se rassembler juste pour évoquer des choses de Dieu. On est là pour parler de la puissance de Dieu qui est encore agissante aujourd'hui, la puissance de l'Évangile. Et le Seigneur a amené Élisée à Bethel. Et ensuite, il n'a pas arrêté là. Il l'a amené au Carmel, au Mont Carmel. Et vous savez ce qui s'est passé au Mont Carmel? C'est là où Élie avait rassemblé les prophètes de Baal et Dieu avait montré sa puissance. Il avait montré qu'il était Dieu. Et j'aimerais ce matin inviter ceux qui ne savent pas si Dieu est Dieu. Ils ne savent pas si c'est juste une religion, si c'est juste une croyance, ou si c'est la puissance de Dieu telle qu'elle a été décrite ce matin, par les exhortations, et par ce message, et par les chants qui ont été proclamées, par les prières qui ont été proclamées. Peut-être vous dites, je ne sais pas. Eh bien, allez au Mont Carmel, bien sûr, pas géographiquement, mais allez spirituellement. Et vous verrez là la puissance de Dieu qui agit, qui démontre en envoyant le feu que c'est lui qui est le Dieu. Que les autres, Baal ou autres, ne sont pas Dieu. Et ce matin, si vous mettez de Dieu de la sorte à l'épreuve, vous verrez si pour vous, il n'ouvre pas les écluses des cieux, comme il était dit dans Malachie. Vous savez que dans l'histoire des années 50-60 de l'Église, eh bien, il y a une femme à Hasbrouck qui a entendu ce message, qui était malade et qui a entendu le message, un message qui était sur Malachie, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Elle est rentrée chez elle, elle a dit à Dieu, « Alors si c'est vrai, je te mets à l'épreuve, je te demande d'intervenir dans ma vie. » Et Dieu est intervenu immédiatement. Elle en a vu les conséquences, si je ne me trompe pas, le lendemain. Voilà ce que Dieu veut des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout, qui sont prêts à donner, oui, toute leur vie, à abandonner leur passé pour pouvoir suivre sans détour. Et lorsqu'ils ont manifesté ce désir et cette fidélité, je ne parle pas forcément dans le temps, mais ce désir en tout cas de le suivre de manière fidèle, eh bien, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils peuvent voir que Dieu agit par eux-mêmes. Ils peuvent aller dans les repasser les expériences spirituelles en les vivant par eux-mêmes et non plus en suivant le modèle, n'est-ce pas ? En suivant quelqu'un ou en suivant un maître. Eh bien, c'est là ce que le Seigneur veut faire dans vos vies ce matin. Et le Seigneur est à l'œuvre. Si seulement on pouvait croire. C'est une nouvelle année scolaire qui va commencer dans un mois. Est-ce qu'on croit que dans cette année scolaire, Dieu va intervenir dans cette Église ? Il va amener des personnes à l'Évangile. Il va amener des personnes à la connaissance de Christ. Il va amener des personnes qui ont des problèmes, qui voient leurs murailles tomber, qui voient l'eau souillée qui devient saine, qui découvre la maison de Dieu, la présence de Dieu. C'est ça qu'on veut. On veut que ce soit comme ça. Et le Seigneur va agir. Il va nous utiliser les uns et les autres pour cela. Que son nom soit béni. Amen.